France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Quand l'Iran menace d'abandonner toute retenue, l'armée israélienne se dit prête pour sa part à étendre ses opérations au Liban. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie prévient ce conflit est en train de provoquer la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de toute l'histoire. On détaillera ainsi les derniers développements donc de la guerre qui se poursuit toujours au Proche et Moyen-Orient. Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal. On se rendra également à Beyrouth. Et puis on parlera géopolitique de l'énergie avec notre invité. À suivre également le coût faramineux de la relance du nucléaire en France. Et puis face à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, on s'intéressera par ailleurs à la prise en charge parfois difficile des sinistrés par les compagnies d'assurance. 13 jours de bombardements et d'explosions assourdissantes. Pourquoi faire au 13e jour de la guerre d'anéantissement lancée par les États-Unis et Israël au Proche et Moyen-Orient, les morts se comptent par centaines, les blessés par milliers et les déplacés désormais par millions. Parmi ces victimes, plus de 170 personnes ont perdu la vie dans le bombardement d'une école primaire en Iran, résultat d'une erreur de ciblage de l'armée américaine. De son côté, le régime théocratique au pouvoir à Téhéran ne s'est pas effondré et quand bien même il reste difficile de se faire une idée de la vie quotidienne sur place, tout porte à croire qu'il s'agit davantage de survie quotidienne mêlée d'angoisse, d'incertitude, de colère aussi parmi les civils, dès lors que les déflagrations et la répression sont désormais devenues indissociables. Alors hier, Donald Trump a malgré tout laissé entendre que l'Iran était, je cite, « proche de la défaite ». Sauf que rien pour l'heure ne permet d'envisager un tel scénario. Les gardiens de la révolution, lesquels n'ont sans doute plus rien à perdre dans ce conflit, se disent prêts, au contraire, à une longue campagne pour forcer Washington à la retraite en pilonnant les intérêts occidentaux. Ce matin même, l'Iran a de nouveau lancé une nouvelle vague d'attaques contre les infrastructures pétrolières des pays du Golfe. Et puis, son allié Hezbollah, que l'on croyait pourtant extrêmement diminué depuis la guerre à l'automne 2024, a également lancé plusieurs attaques contre Israël. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, des explosions ont encore été entendues ce matin au-dessus de la ville sainte, ce qui veut dire que l'Iran et le Hezbollah commencent à répliquer ensemble avec ce qui apparaît de plus en plus, Thibault, comme une stratégie coordonnée.
Trois salves de roquettes et de missiles hier soir et cette nuit au nord. Le Hezbollah a envoyé du Liban entre 120 et 200 roquettes et des dizaines de drones selon les sources. Et au même moment, de l'Est, le régime iranien a ciblé le territoire israélien avec des missiles balistiques. Le bilan est anecdotique. Deux blessés légers car la défense antiaérienne est efficace et les Israéliens sont disciplinés et vont systématiquement aux abris. Mais derrière cette capacité évidente de résilience, il y a de la crainte, car pour la première fois, l'Iran et le Hezbollah semblent, vous l'avez dit, s'être coordonnés. Ça veut dire d'abord qu'ils ont, après 13 jours de guerre, toujours la capacité de communiquer et d'élaborer des stratégies communes de riposte. Et puis qu'ils peuvent essayer de saturer la défense antiaérienne avec les drones et les roquettes du Hezbollah pour permettre ensuite aux missiles iraniens de passer à travers le bouclier israélien et donc de toucher leur cible.
Et puis ce matin, plusieurs attaques ont à nouveau secoué Téhéran. Cette fois-ci, le Premier ministre Netanyahou reste sur la même ligne. Il veut démanteler le régime, mais en Israël, Thibault, ils sont visiblement de moins en moins nombreux à y croire.
Oui, avec donc cette nouvelle vague de frappes israéliennes ce matin sur l'Iran, dans le viseur les infrastructures du régime, des lanceurs de missiles et puis un site de production d'armes nucléaires selon la communication de l'État hébreu. Netanyahou, lui, communique avec toujours autant de froideur par des vidéos préenregistrées envoyées sur Internet qui martèlent le même objectif de guerre, la fin du régime des Mollahs et des gardiens de la Révolution. Mais dans les coulisses, l'état-major des armées est plus circonspect et parie plutôt sur une érosion du pouvoir iranien sur le moyen terme. La stratégie de l'État hébreu reste cependant assez claire. Il faut frapper fort, vite, aller le plus loin possible, avant que le président américain Donald Trump ne décrète la fin de la guerre.
Merci Thibault Lefèvre, en direct de Jérusalem. Alors dans ce jour sans fin au Proche-Orient, ces attaques lancées par le Hezbollah contre Israël font écho au supplice de la lente banalisation des coups portés par l'État hébreu contre son voisin libanais jusqu'à faire suffoquer tous les rêves de la population de toucher enfin du bout des doigts un jour une vie meilleure. Ce matin, Israël a prévenu que les dirigeants libanais qu'il prendrait donc des territoires s'ils n'agissent pas contre le Hezbollah. La nuit dernière, déjà, la banlieue sud de Beyrouth a été lourdement frappé. Une dizaine d'explosions puissantes dans un secteur qui ne constitue pourtant pas un bastion de la milice pro-iranienne. Et puis, la corniche de la capitale, là aussi, en dehors des quartiers tenus par le Hezbollah, a été visée par un drone. Bilan, 8 morts. Nos envoyés spéciaux Étienne Monin et Martin Troadec se sont rendus sur place ce matin.
Oui, cette frappe a eu lieu au milieu de la population. Le secteur de la corniche sert de refuge aux déplacés. Il y a des tentes sur le trottoir et des voitures garées depuis des jours avec des familles qui dorment à l'intérieur. Batoul dormait dans sa tente verte. Elle vit sur le trottoir depuis le début de la guerre.
Mon cœur s'est arrêté, mes oreilles ont explosé. J'ai senti la pression dans ma tête à cause de la puissance de la détonation.
La frappe a eu lieu vers 1h du matin. On voit une Hyundai grise ciblée d'éclats et une mobile carbonisées. Elles ont sans doute été visées par un drone. Elles étaient garées sur la corniche, en face de la tente de Zaideh, qui marche péniblement, blessée à la hanche et aux jambes par cette explosion.
Quand il y a eu la première explosion, j'ai été le premier blessé. Je suis sorti pour m'assurer que ma famille allait bien. Les gens étaient affolés. Et directement, il y a eu la deuxième frappe. Je ne me rappelle plus rien.
Ce matin, le secteur est bouclé par les militaires. Ils creusent encore sur le trottoir. Les témoins expliquent qu'une troisième charge n'aurait pas explosé.
Un reportage à Beyrouth signé Étienne Monin et Martin Troadec. Alors chacun sait bien que la durée de cette guerre aura nécessairement un impact direct sur l'économie. Déjà l'embrasement régional a provoqué une hausse spectaculaire des prix de l'énergie dans le monde entier. C'est ainsi qu'hier, plusieurs grandes puissances ont annoncé le déblocage de leurs réserves stratégiques pour une quantité record de 400 millions de barils. Un mécanisme d'urgence tout à fait exceptionnel, censé apaiser les marchés, mais qui d'une part n'aura fait que confirmer en réalité la gravité des pénuries à venir, et d'autre part qui n'aura pas suffi à rassurer sur les approvisionnements, de sorte que le baril de pétrole a repassé la barre des $100 ce matin, tandis qu'à nouveau partout les marchés asiatiques déclinent. On va y revenir dans un instant avec notre invité. En attendant, l'Agence internationale de l'énergie publie son rapport mensuel ce matin sur le pétrole, et sans surprise, Annabelle Grelier, l'AIE se montre extrêmement inquiète.
La guerre au Moyen-Orient, qui paralyse le détroit d'Ormuz et avec lui la circulation mondiale des hydrocarbures, constitue la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, a averti ce matin l'Agence internationale de l'énergie. Selon son dernier rapport mensuel, l'agence annonce que les pays du Golfe réduisent actuellement leur production pétrolière d'au moins 10 millions de barils par jour, soit la moitié de leur production. Et pour cause, ces dernières 24 heures, les attaques iraniennes ont particulièrement ciblé les réservoirs et dépôts de carburant au Bahreïn. À Oman, le port est en feu. L'Arabie saoudite, elle, a essuyé une nouvelle attaque de drones contre le champ pétrolier de Shaïba, dans l'est du pays, déjà visé à plusieurs reprises. Deux pétroliers au large de l'Irak ont été frappés, après trois déjà hier. Conséquence directe, le cours du pétrole est reparti en flèche. Et l'annonce hier des 32 pays membres de l'agence, dont les États-Unis, du déblocage record de 400 millions de barils dans leurs réserves stratégiques n'a pas apaisé les inquiétudes du marché. Loin s'en faut, la barre symbolique des $100, le baril de Brent, a une nouvelle fois été atteinte ce matin. C'est comme si on éteignait un incendie d'une raffinerie avec un tuyau d'arrosage, dit-on chez les courtiers. Alors, ces réductions de production au Moyen-Orient devraient être partiellement compensées par une hausse de production des pays non membres de l'Alliance élargie de l'OPEP, c'est-à-dire le Kazakhstan et la Russie. Mais là, rappelons que le pétrole et le gaz russe font l'objet de sanctions depuis la guerre en Ukraine. Des discussions sont donc engagées entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour éventuellement lever ces sanctions. Et pour le moment, la Commission européenne y est totalement opposée. Mais pour combien de temps encore? Au regard de la pression sur toutes les économies mondiales.
Et invité à présent de la rédaction, Emmanuel Hache, chercheur associé à Economics de l'Université Paris-Nanterre, auteur notamment d'une géopolitique des énergies aux éditions Erol. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On vient de l'entendre, l'AIE affirme ce matin donc que le blocage du détroit d'Ormuz constitue la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de toute l'histoire. Comment interprétez-vous cette déclaration? Est-ce que cela signifie que les conséquences de ces deux semaines de guerre sont d'ores et déjà plus importantes que lors des précédentes crises qu'a connues le Moyen-Orient?
Alors effectivement, ce déblocage de 400 millions de barils, c'est un indicateur frappant de la gravité du conflit en cours. C'est pourquoi il faut le lire véritablement comme une sorte de thermomètre de la crise. Lorsque vous regardez de manière historique, hein, c'est un record absolu. C'est la sixième fois seulement que l'Agence internationale de l'énergie, elle coordonne un déblocage des stocks stratégiques depuis qu'elle a été créée en 1974. Mais l'ampleur, cette fois-ci, est véritablement inédite. Hein. Le précédent de 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, était autour de 182 millions de barils. Aujourd'hui, on en est à 400 millions de barils. C'est tout simplement l'ampleur, j'allais dire, de l'artère énergétique que constitue le détroit d'Ormuz, qui fait qu'on a une réaction simultanée, en fait, de l'ensemble des États qui sont membres de l'AIE.
400 millions de barils, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que cela représente? Est-ce que l'on sait, par exemple, à quel pourcentage des réserves stratégiques totales ce déstockage de barils correspond?
Alors, 400 millions de barils, on a aujourd'hui une demande mondiale de pétrole qui est autour de 100 millions de barils. Mais
par
ce
jour.
Qu'il faut regarder surtout, par jour, oui, bien sûr, ce qu'il faut regarder, c'est ce que constitue aujourd'hui le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz voit passer de manière quotidienne environ 20 millions de barils jour. Donc, ça fait environ une vingtaine de jours d'approvisionnement pour l'ensemble des importateurs. Ce qu'il faut, c'est un tout petit peu plus que 20 jours, tout simplement, parce qu'il y a une partie quand même du pétrole qui peut contourner le détroit d'Ormuz, notamment par les éoléoducs, notamment aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite.
Et pourquoi 400 millions et pas 600 ou 800 millions ?
Ah bah je pense que l'AIE a déjà frappé très fort. Hein. 400 millions, c'est un tiers des réserves stratégiques qui sont détenues par les pays membres de l'AIE. Donc déjà, on est dans une ampleur qui est absolument inédite. Après, c'est une concertation entre tous les pays membres sur leur volonté de ne pas non plus alerter davantage, j'allais dire, le marché. Si l'AIE était arrivé avec 600 ou 800 millions de barils, je pense que ça aurait renforcé les craintes de la part des opérateurs qui sont déjà très imprégnés par la peur.
Ce matin, les bourses sont malgré tout ouvertes par une hausse du cours du pétrole. Est-ce que cela signifie que les investisseurs estiment que la décision donc de l'AIE de débloquer des stocks n'est pas suffisante pour compenser les tensions à venir sur l'approvisionnement mondial ?
Alors, je pense qu'il faut le lire de manière différente, c'est-à-dire que si l'AIE n'avait pas débloqué ces 400 millions de barils par jour de stocks stratégiques, les cours seraient montés plus haut. Ce qu'il se passe, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on a une peur qui imprègne les marchés, et le problème, c'est que, si vous voulez, dans le même temps, on a eu des informations, notamment sur le fait que potentiellement l'Iran pourrait miner le détroit d'Ormuz, ça veut dire des conséquences à très long terme. On a aussi des attaques sur les installations pétrolières dans la région, et de fait ce déblocage des stocks stratégiques permet finalement juste d'atténuer les tensions en cours, et j'ai envie de dire malheureusement, car malgré tout, encore une fois, il faut prendre en compte que c'est recourir aux stocks stratégiques, c'est permettre notamment aux États d'essayer d'apaiser les tensions, et donc véritablement c'est un symbole qui est très très fort qui a été fait.
Depuis plusieurs années déjà, nombre d'observateurs des politiques écologiques s'interrogent sur comment les dépendances géostratégiques liées aux énergies fossiles peuvent favoriser ou non donc la transition énergétique. Est-ce que la crise qui s'ouvre donc autour du détroit d'Ormuz pourrait favoriser, selon vous, des acteurs économiques moins dépendants au pétrole et in fine accélérer donc la sortie de cette dépendance ?
Oui, si vous voulez, déjà le conflit en Ukraine en 2022, qui avait débuté en 2022, avait véritablement été un catalyseur des dépendances, notamment des pays comme l'Union européenne. Je pense que aujourd'hui, on se rend compte que la sécurité énergétique, certes, on peut diversifier ses approvisionnements, mais on se rend compte que, étant donné que les prix sont mondiaux, même en diversifiant, on subit ces chocs énergétiques, et finalement, on s'aperçoit que la seule solution aujourd'hui, si on veut être résilient face à ces problématiques géopolitiques, c'est la décarbonation. Donc ça veut dire véritablement qu'il faut décarboner le transport, et il va falloir décarboner notamment tout le secteur de l'énergie, et bien évidemment, il va y avoir des gagnants à moyen terme. Si nous rentrons dans ce type de politique, ce sont ceux qui déploient et qui manufacturent l'ensemble des technologies bas carbone, et au premier rang duquel on va trouver la Chine.
C'est bien compris. Merci Emmanuel, un chercheur associé, je le rappelle, à Economics de l'Université Paris-Nanterre, auteur également d'un ouvrage publié aux éditions Erol, intitulé « Géopolitique des énergies ». Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Et c'est donc dans ce contexte qu'Emmanuel Macron poursuit, lui, sa campagne de relance du nucléaire prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Oui, le chef de l'État a prévu de présider cet après-midi un conseil de politique nucléaire, à Penly qui doit accueillir deux nouveaux réacteurs EPR2, l'occasion de vanter une nouvelle fois l'atome susceptible, on en parlait à l'instant, de réconcilier à la fois l'indépendance et donc la souveraineté énergétique du pays, en même temps que la décarbonation et donc l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, sans oublier la compétitivité et la création d'emplois. Reste toutefois à connaître quel sera le montant global de cette stratégie à long terme. Greenpeace a fait les comptes et selon l'ONG, la note pourrait s'avérer particulièrement salée en période d'austérité. Au total, Véronique Robérotte, le coût de la relance du nucléaire en France est estimé entre 380 et 650 milliards d'euros.
Les calculs ont été faits à partir des données fournies à la fois par la Cour des comptes, l'État ou les industriels du nucléaire. 380 milliards d'euros si tout se passe bien, jusqu'à 650 milliards si les coûts et les délais de l'ensemble des chantiers prévus viennent à exploser. Vertigineux, quoi qu'il en soit, estime Florence de Bonafos, chargée de campagne finance à Greenpeace France.
Dans cette fourchette, il y a évidemment le coût du programme de construction de 6 puis 8 EPR2. Il y a également les coûts des visites décennales, c'est-à-dire que tous les 10 ans, un réacteur doit être revu. On compte aussi ce que EDF appelle l'aval du futur, c'est-à-dire tout ce qui concerne les combustibles usés et les déchets nucléaires, pour pouvoir les stocker, les entreposer, qui seront évidemment bien plus importants compte tenu de la volonté à la fois de prolonger les réacteurs existants et à la fois de construire de nouveaux réacteurs.
À lui seul, le programme EPR2 est évalué entre 220 et 400 milliards d'euros par Greenpeace. EDF avait initialement chiffré la construction des 6 premiers EPR2 à presque 58 milliards d'euros en 2022, réévalué fin 2025 à 73 milliards d'euros. Voilà qui n'est pas bien maîtrisé, estime Florence de Bonafos.
Aujourd'hui, en fait, on prend la décision d'un investissement qui va être extrêmement lourd, sans savoir si les EPR2 sont faisables, sans savoir combien ils vont coûter, sans savoir combien on va payer. Donc, légitimement, on considère que cette décision est extrêmement inquiétante.
D'après Greenpeace, l'État réfléchit à utiliser l'épargne du livret A pour financer la relance du nucléaire.
S'agissant toujours d'argent et de finances publiques, la Cour des comptes vient de publier un rapport accablant.
Oui, la juridiction financière a dressé le bilan de la privatisation du système d'immatriculation des véhicules, une réforme engagée en 2017 et qui a ouvert la voie à des fraudes massives pour un montant total d'un demi-milliard d'euros de pertes de recettes fiscales.
Et que dire à présent du coût des catastrophes naturelles ?
Inondations, tempêtes, sécheresses, vous le savez, les phénomènes climatiques extrêmes ont tendance à se multiplier. Alors dans certains cas, la prise en charge des sinistrés se fait grâce à un régime spécial dit CatNat pour catastrophes naturelles. Et au sommet de ce régime d'indemnisation, on trouve la Caisse Centrale de Réassurance, la CCR, l'assureur des assureurs. Catherine Patillon, bonjour.
Bonjour.
Il se trouve que ce matin, la CCR, justement, présentait donc ses résultats. Et ceux-ci repassent au vert, malgré, donc, Catherine, des années difficiles du fait de la multiplication des sinistres.
Oui, car au-delà d'un certain seuil d'indemnisation, c'est elle qui paye. Donc plus les sinistres sont importants, plus l'assureur des assureurs doit payer. Alors la Caisse perdait chaque année de l'argent. Après 8 ans de déficit, elle présente cette fois un résultat de 130 millions d'euros. Il est dû essentiellement à la hausse réglementaire de ce qu'on appelle la surprime CatNat, laquelle est prélevée sur toutes les primes dommages payées en France via l'assurance habitation de tout un chacun et les assurances des entreprises. Sa hausse a été instaurée en janvier 2025 précisément pour rééquilibrer ce régime d'assurance publique-privée et donc préserver l'assurabilité des biens partout en France. De fait, elle a généré 541 millions de ressources supplémentaires dès la première année. Reste que cette année, 40% du résultat net du réassureur sont exceptionnels car ils sont dus à la vente d'une filiale. Pour autant, la pérennité de ce système assurantiel n'est pas menacée, estime le directeur général de la CCR, Édouard de Villefond, tout en insistant sur des risques connexes.
Aujourd'hui, la lumière est sur l'assurabilité en disant qu'il y a un risque que les assureurs partent ou qu'il y ait moins d'assurance. Aujourd'hui, ça se gère et si on a les bonnes adaptations, on va y arriver. Par contre, il y a un autre sujet qui est assez peu débattu et qui risque de rattraper, voire de dépasser, c'est le financement. Si les Français ne peuvent plus financer la construction d'une maison, s'ils ne peuvent pas racheter parce qu'ils n'ont plus un crédit, ou si des entreprises ne peuvent plus construire une usine faute de caution, d'assurance, etc., ça va être compliqué. Or, ce sujet est en train de devenir d'actualité de façon majeure, donc il faut traiter les deux, en fait.
À plus court terme, le réassureur avait néanmoins la mission confiée par le gouvernement de monter un observatoire de l'assurabilité, en très résumé, croiser la carte des risques climatiques et celle des assureurs et voir quelles difficultés pourraient se poser à l'avenir. Sa première version est depuis la fin de l'année dernière entre les mains du gouvernement. Il ne l'a toujours pas rendu public.
Merci Catherine Pétillon. Voilà plusieurs années déjà que des associations religieuses très influentes réclamaient la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. C'était également une promesse de longue date du camp au pouvoir. Hier, les députés ont voté une loi qui double les peines réprimant les relations entre personnes de même sexe, punies désormais de 5 à 10 ans de prison. Enfin, dénigrement, haine, stigmatisation en Chine. Là-bas, le gouvernement s'apprête, lui, à promulguer une nouvelle loi aujourd'hui visant l'assimilation des minorités ethniques à la culture chinoise. De quoi faire craindre, évidemment, une érosion de la diversité culturelle et des droits des minorités. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil au sud, tandis que les nuages seront plus nombreux au nord. Quant aux températures, elles seront comprises entre 10 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.